Sur d'Europe, Catherine Roland.
Iye malisajo, ah malisajo. Bafuna be malisajo, dali mambete.
Bonjour à tous. La situation reste difficile en Méditerranée pour les migrants et les demandeurs d'asile sauvés par les bateaux des ONG. Pour certains, c'est malgré tout le temps du repos. 10 jours après avoir accosté dans le port de Valence, les migrants de l'Aquarius prennent leur marque. Logés dès leur arrivée dans un gymnase d'un campus universitaire de la bourgade de Cheste, à quelques kilomètres de Valence, ils sont peu à peu envoyés vers d'autres logements plus stables. Tous disposent d'une carte de sécurité sociale avec accès aux soins gratuits et d'un permis de résidence de 45 jours. Un laps de temps durant lequel ils devront décider entre deux options, soit demander l'asile en Espagne, soit se rendre en France, seul autre pays ayant proposé de recevoir des migrants. Diane Cambon a rencontré quelques-uns de ces rescapés. Reportage à Cheste.
À la porte du campus universitaire, une grappe de 3 jeunes Africains en jogging noir et large t-shirt attendent un véhicule qui les emmènera dans la petite ville de Cheste, située à 3 km. Grâce à leur permis de séjour, ils peuvent se déplacer librement, entrer et sortir toute la journée du gymnase où ils sont logés. Leur visage est fermé, le regard inquiet, ils finissent par monter dans un taxi. Assis à l'avant, le plus jeune des 3 ne parvient pas à accrocher sa ceinture, ce qui provoquera le seul sourire de ses camarades de voyage. Ibrahim Bonnet a tout juste 20 ans, il vient du Ghana, et peu importe où il vivra plus tard en Europe, il a déjà survécu au pire.
Je m'en fiche de l'endroit. Quand on vient de Libye, c'est tellement dur là-bas. Les gens vous tuent, vous détruisent. Donc quand on est en vie et que l'on ne risque plus de mourir, peu importe l'endroit qui nous accueille. On est entré en Espagne et pour nous, c'est OK.
Dans le petit village, sous le regard étonné d'un groupe de retraités espagnols qui prennent le frais, les 3 jeunes explorent un territoire inconnu. Manquant de se faire renverser par une voiture, ils entrent mal à l'aise dans un petit supermarché. L'un d'eux ressortira avec une crème hydratante, l'autre achat sera un paquet de cigarettes. Ils ne s'attardent pas et reviennent aussitôt au campus. Là, un autre petit groupe de migrants s'apprête à s'aventurer à l'extérieur. Jimmy Kala, âgé de 21 ans, qui a dû abandonner ses études pour des questions financières, est plus loquace. Dans quelques jours, il rejoindra un logement mis à disposition par une ONG dans la ville de Grenade. Seconde étape de l'opération Espoir en Méditerranée, qui consiste à reloger pour une durée plus longue les migrants. Les premières personnes à bénéficier de ces mesures sont les familles avec enfants et les femmes seules. Une population considérée comme vulnérable qui est tenue à l'abri de la presse, mais aussi des potentiels mafias. Les femmes victimes de mauvais traitements ou viols sont-elles dirigées vers des centres de protection spécialisés ? Jimmy Kala est conscient de sa chance et ne tarit pas d'éloges à l'égard du gouvernement socialiste Pedro Sanchez.
Quand vous voyagez en mer, ce n'est vraiment pas facile et l'Italie n'a pas voulu nous sauver. Mais grâce à Dieu, le président espagnol, lui, a bien voulu de nous et nous a accueillis dans son pays. Nous sommes très heureux de son geste et nous le remercions de tout notre cœur.
Pour lui, aucun doute. Il compte demander l'asile à l'Espagne. Si cette demande est rejetée, il devra suivre l'itinéraire passant par l'inévitable CIE, un centre d'internement pour étrangers. Ces centres ont une très mauvaise réputation, les conditions y sont très difficiles, en bonne partie parce que la plupart sont saturés. Selon les cas, les immigrants sont déportés ou reçoivent un avis d'expulsion qui, dans la pratique, les pousse à poursuivre leur périple ailleurs, en Europe. Mais si sa demande est acceptée, il recevra alors une aide économique, un logement et une formation linguistique pendant une période allant de 18 à 24 mois.
Non. Moi maintenant, je veux retourner à l'école. Je veux apprendre l'espagnol et je veux vivre ici, oui. Ici en Espagne, car ce qu'a fait le gouvernement pour nous, c'est tellement bien.
Ce n'est pas le cas de ses compagnons. Pour Ahmed, originaire du Soudan, le choix est clair.
Je veux aller en France. C'est là où j'ai mon frère. Il est à Marseille.
Tout comme cet Algérien de 23 ans.
J'ai les papiers espagnols pour 45 jours. Mais j'ai vu l'avocat et j'ai demandé l'asile en France. La France, Inch'Allah.
Le Bureau français des protections des réfugiés et apatrides a déployé sur place une dizaine de personnes chargées de mener les entretiens avec les candidats à l'asile. Durant leur démarche, les migrants sont accompagnés par des interprètes et des psychologues. Ils sont invités à raconter leur périple depuis leur pays d'origine. Près de 290 des 630 passagers de l'Aquarius ont fait savoir qu'ils voulaient rejoindre la France.
We'll be proud to say, I am an European.
Nous vous en parlions hier déjà dans Accent. Le Conseil de l'Europe aujourd'hui et demain fait étalage de ses dissensions face à cette question des migrants. Au même moment, des dizaines de milliers de personnes défilent à Londres pour clamer leur hostilité au Brexit, qui risque de plonger le Royaume-Uni dans une sérieuse crise économique. Dans cette atmosphère plutôt confuse, où en est donc l'opinion des Européens à l'égard de l'UE et des grandes questions qui l'agitent? Daniel Vigneron s'est plongé dans les vastes enquêtes d'opinion réalisées tous les ans. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, observe-t-on en ce moment un recul de l'idéal européen?
Il est vrai Catherine que le spectacle de désunion qu'offrent continuellement les pays membres montre combien les intérêts et les égoïsmes nationaux sont en train de prendre le pas sur les intérêts néanmoins communs des 28 pays de l'Union. De là à dire que l'idée européenne est en train de mourir, il y a un grand pas que les études d'opinion nous invitent à ne pas franchir. Publiés plusieurs fois par an par la Commission ainsi que par le Parlement européen, les eurobaromètres nous offrent à intervalles réguliers une photographie très précise de l'opinion des Européens qui, à chaque enquête, sont plus de 28 000 à être sondés. Il en ressort des résultats nuancés et parfois surprenants. D'abord, le front des pros et des anti-européens a beaucoup bougé depuis une quinzaine d'années et certaines évolutions sont inattendues.
Lesquelles, par exemple ?
Par les temps qui courent, personne ne s'étonnera de l'évolution de l'opinion italienne. À la question « l'appartenance de mon pays à l'UE est-il une bonne chose ?», 60% des Italiens répondaient « oui » en 2000. En 2018, ils ne sont plus que 39%. Une évolution totalement contraire à celle de l'opinion espagnole, qui reste satisfaite, elle, à 68%. Quant aux Français, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils sont satisfaits à 55%, soit 6 points de mieux qu'en 2000. Moins connu encore le fait que Suédois et Danois étaient plutôt hostiles à leur appartenance à l'UE en 2000, alors qu'à plus des deux tiers, voire des trois quarts, ils en sont très satisfaits aujourd'hui. Ensuite, savez-vous que seulement 4 Allemands sur 10 étaient contents il y a 18 ans de leur appartenance à l'Union ? Aujourd'hui, c'est 8 sur 10, un plébiscite. Enfin, cerise sur le gâteau, les Britanniques qui vont normalement quitter le navire dans moins d'un an sont aujourd'hui près de 50% à se satisfaire de l'UE, soit deux fois plus qu'en 2000.
Daniel, l'Union a donc satisfait certains pays plus que d'autres.
Disons que les Britanniques craignent de perdre des entreprises et des marchés en quittant l'Union, tandis que l'Allemagne ne peut que constater que sa prospérité économique doit beaucoup à l'UE. Quant aux pays de l'Est, les aides européennes parviennent tout à fait à les satisfaire. Mais le cas de l'Italie montre que ce pays se sent délaissé face à la question migratoire. D'ailleurs, quand on leur demande si les intérêts de leur pays sont bien pris en compte au sein de l'Union, seul un tiers des Italiens répond oui, contre 41% des Français, près de 60% des Suédois et 72% des Allemands.
Certains pays perdent confiance en l'Union européenne.
La confiance dans les institutions européennes est globalement minoritaire, à 42% contre 48% qui n'ont pas confiance. Mais si l'on regarde l'Allemagne, la confiance a progressé de plus de 12 points depuis 8 ans. Au contraire, elle a reculé de 6 points en Italie et de 5 points en France. Dans ces deux pays, plus de la moitié des citoyens ne font plus confiance aux institutions européennes.
Et sur la question migratoire, quels sont les pays les plus hostiles à l'ouverture ?
Dans plusieurs pays, les citoyens sont très hostiles à plus de 80% à l'immigration. Sans surprise, c'est le cas de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie. D'autres encore sont largement hostiles autour des deux tiers des sondés, comme l'Italie ou la Pologne. Puis vient un groupe que l'on peut qualifier de central où l'opinion est plutôt défavorable à 50-55% à l'immigration. C'est le cas de la France, de la Belgique, mais aussi de l'Allemagne et de l'Autriche. Enfin, quelques pays sont nettement favorables à l'ouverture à plus de 60%, l'Espagne, le Portugal, la Suède ou encore l'Irlande. Cette mesure de l'opinion correspond d'ailleurs aux politiques menées par les États membres ou aux inflexions qui sont en cours, comme en Allemagne.
Finalement, Daniel, les politiques suivent-ils les opinions publiques ?
Oui, mais pas toujours. Alors que le repli sur des politiques nationales de fermeture tend à se généraliser, les Européens sont ainsi plus des deux tiers à réclamer une politique commune de l'immigration. C'est manifeste en Allemagne, Pays-Bas ou Espagne, où plus de 4 citoyens sur 5 y sont favorables. Mais l'on voit aussi que plus des deux tiers des Français et même des Italiens désirent une politique européenne d'immigration. Et dans les pays les plus hostiles aux migrants, comme la Pologne ou la Hongrie, la moitié des sondés est favorable à cette politique commune.
Et que peut-on en conclure ?
Que l'opinion publique ne soutient des politiques à relent nationaliste que parce que l'Union ne parvient pas à s'entendre sur une stratégie de long terme. En fait, l'Europe traverse une mauvaise passe, mais l'idée européenne n'est pas morte.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Y a-t-il encore des fleuves sauvages sur le continent européen ? Barrages et centrales les ont domptés avec des conséquences écologiques quelquefois catastrophiques. Alors qu'on commence justement à revenir sur ce choix énergétique dans les Balkans, on envisage encore de construire 3000 centrales hydroélectriques. 500 sont déjà recensées en Albanie et de nouveaux barrages pourraient être érigés sur la Vjosa, l'un des derniers grands fleuves sauvages. Afin de le protéger, les habitants et la communauté scientifique se mobilisent. Et c'est le reportage de Louis Seyé.
Dissimulés dans le maquis en fleurs, des dizaines de chèvres dégringolent des collines de Cesarat, petit village du sud de l'Albanie. Dans ce paysage grandiose façonné par d'imposantes montagnes, elles sont accompagnées de Marie Glenn, un berger d'une trentaine d'années.
Tous les jours, je descends vers le fleuve. C'est ici que mes bêtes viennent s'abreuver. La Vjosa est très importante pour nous. Elle nous apporte beaucoup de choses.
Prenant sa source au nord de la Grèce et se jetant 270 km plus loin dans la mer Adriatique, la Vjosa est l'un des principaux fleuves d'Albanie. Quelques centaines de mètres plus loin, le chantier à l'arrêt du barrage de Kalivac rappelle les menaces qui pèsent sur cet environnement fragile. Attirés par le potentiel énergétique des cours d'eau de la région, les entrepreneurs se font de plus en plus nombreux. Comme des centaines de rivières dans les Balkans, les eaux de la Vjosa pourraient se voir bientôt contraintes par les barrages. Avec ses 50 mètres de haut, la plus importante digue engloutirait les champs fertiles de plusieurs villages. Un avenir que Chucho, tout juste revenu de la pêche, ne veut même pas imaginer.
Je travaille, je me nourris grâce au fleuve. Et pas seulement moi, mais toute la communauté ici. Nous irriguons nos champs avec les eaux de la Vjosa. Mais nous n'aurons plus cette nature s'ils construisent le barrage. Nos terres, nos maisons seront submergées et nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Canne à pêche dans le dos, Chucho montre sa prise du jour. Dans le sac, près de 5 kilos de poissons qui lui rapporteront une dizaine d'euros. Avec l'agriculture, la pêche reste l'un des moyens de subsistance dans une région marquée par l'immigration. Mais pour les habitants, la Vjosa est bien plus qu'une simple ressource économique. C'est ce qu'explique Olsi Nika, responsable de l'ONG Eco Albania.
Pour les habitants, la Vjosa est à la fois un héritage naturel, mais aussi un patrimoine culturel. Les gens habitent la Vjosa depuis des milliers d'années et n'ont jamais cessé de l'utiliser, que ce soit pour la pêche ou la récupération du bois qu'elle charrie. Avec le fleuve, les habitants construisent leurs berceaux, leurs maisons et leurs tombes. Leur cycle de vie complet s'articule autour du fleuve.
Menacé par la construction possible d'une quarantaine de centrales hydroélectriques sur son cours et ses affluents, la Vjosa ne laisse pas indifférent. Concerts de soutien, pétitions, manifestations en canoë ou actions en justice, depuis plusieurs années, Olsi et son association multiplient les initiatives pour sauver le fleuve.
Le nom Vjosa est un prénom très répandu chez les femmes en Albanie. Autour de ce fleuve, les gens ont tissé des liens culturels, émotionnels et scientifiques même. Du coup, construire une centrale hydroélectrique signifierait la mort de la Vjosa. Ce fleuve sauvage et vivant serait transformé en un lac artificiel, des eaux mortes en quelque sorte. Nous continuons donc à nous opposer au projet, avec l'appui des scientifiques étrangers et locaux et aux côtés des habitants, bien sûr.
Entièrement épargné par les constructions humaines, l'écosystème très dynamique de la Vjosa est unique sur le continent européen. Le cœur bleu de l'Europe, comme le surnomment certains, reste pourtant mal connu de la communauté scientifique. À bord d'une curieuse embarcation, le biologiste viennois Paul Meulenbroek s'adonne à la pêche électrique. Un mal nécessaire pour inventorier les espèces de poissons qui s'y trouvent.
La Vjosa est l'un des derniers grands fleuves préservés en Europe à couler encore librement. En Europe centrale et occidentale, la majorité des fleuves ont été aménagés, voire dégradés. Mais ici, nous pouvons observer un système fluvial qui, depuis sa source jusqu'à son arrivée en mer, coule naturellement. C'est très important pour les différentes espèces de poissons et les invertébrés que nous étudions actuellement.
Enchanté par les paysages, le jeune chercheur et ses collègues s'émerveillent également de leur découverte. en perçant les mystères biologiques de la Vjosa, la joyeuse coopération scientifique albano-autrichienne redécouvre également une partie du patrimoine naturel européen.
En Europe, la plupart des fleuves ont été aménagés au cours des 200 dernières années, mais aujourd'hui, on cherche à revenir sur ces aménagements et à rendre leur caractère naturel aux fleuves. Des fleuves références, comme la Vjosa, sont très importants pour comprendre comment ces systèmes naturels fonctionnent véritablement et ce que cela veut dire pour les fleuves dans leur ensemble.
Très mobilisés, les défenseurs de la Vjosa ont suscité une forte attention internationale. Mais faute de véritable protection, le cœur bleu de l'Europe est encore loin d'être tiré d'affaire.
Long time ago, we're back in history. When there was a drink, there's nothing but cups of tea. A long time man, by the name of Charlie Mops. And he invented a wonderful drink and made it out of hops.
Mais contrairement à ce que l'on entend, là, c'est plutôt la panique à bord. En plein mondial, la bière pourrait venir à manquer, tout particulièrement au Royaume-Uni. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'une pénurie de dioxyde de carbone, ingrédient indispensable pour rendre la boisson pétillante, menace. Donc, les supporters de foot vont-ils mourir de soif ? Marie Billon nous en dit plus.
Les pubs britanniques commencent à craindre la panne de la pompe à bière. Alors qu'ils font carton plein grâce à la Coupe du Monde, ils sont rationnés. Rationnés, vous dit-on en une des journaux. Booker, un grossiste britannique, a décidé de limiter ses ventes. Ses clients, des pubs et des restaurants, ne peuvent désormais acheter que 10 caisses de bière et 5 de cidre. Aussi, Heineken ne peut pas fournir autant de John Smith's Extra Smooth et d'Amstel que prévu. Même les Teetotal, comme on les appelle ici, sont touchés. Coca-Cola UK a suspendu sa production. Et tout ça à cause d'un manque de dioxyde de carbone, ce gaz qui fournit les bulles indispensables à ces boissons. Le problème vient d'abord des fournisseurs. Ils arrêtent souvent la production entre avril et juin. C'est le cas en ce moment dans toute l'Europe. Et au Royaume-Uni, il n'y a qu'un seul des grands fabricants qui fonctionne actuellement. Mais le problème vient aussi des Britanniques eux-mêmes, ou plus exactement, la fréquentation des pubs. Et donc la consommation de bière et de cidre et autres boissons gazeuses est montée en flèche ces dernières semaines. En cause, les beaux jours qui ont poussé les Anglais à fréquenter assidûment les terrasses de pubs, romantiquement appelées beer gardens ou jardins à bière. La faute aussi bien sûr à la Coupe du Monde, on sort plus et on boit plus. Alors, si la panique commence à se propager et que certaines petites entreprises sont en effet au chômage technique en attendant le retour triomphal du gaz carbonique, les tenanciers de pubs ne sont pas tous en train de mordre leurs torchons de rage et de frustration. Personne ne mourra de soif, assure-t-il. Il y a assez de bière pour tout le monde, mais il va quand même falloir prendre sur soi, car le choix sera peut-être plus restreint.
Place au métissage et à la musique avec le Rock in Rio, un festival qui se déroule en alternance à Rio de Janeiro et Lisbonne. Cette fois, c'est au tour de la capitale portugaise de recevoir l'événement Marilyn Darcy.
Cette année, la version lisboète de Rock in Rio renoue avec son postulat des débuts en redonnant toute sa place à la musique africaine. Un choix totalement justifié selon Roberta Medina, l'organisatrice du Rock in Rio.
La musique africaine au Portugal, c'est très important. La consommation de cette musique ici est énorme. On a donc pris soin de chercher un bon programmateur en la personne de Paola Nascimento, une Angolaise qui vit au Portugal et connaît bien les musiques noires. C'est différent de parler d'Afrique au Brésil, où les deux cultures sont plus éloignées, et en parler ici au Portugal, qui a d'un côté une population africaine importante, et de l'autre des Portugais très ouverts à cette musique. On ne peut pas dire que c'est quelque chose d'anecdotique, c'est du sérieux. Et je crois que la programmation en est le résultat.
Les sonorités plus traditionnelles de Bonga, les accents électroniques de Nastio Mosquito, ou la voix de velours de la Mozambicaine Selma Wamus, tous les sons de l'Afrique actuelle sont à Lisbonne, à Rock in Rio 2018.
À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr ou évidemment sur notre page Facebook.